Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
C'est encore mon vécu que je vais vous partager un matin. J'ai eu une discussion avec avec ma femme cette semaine. Puis ça m'a comme fait sentir un peu croche, mais c'est ça. J'ai des responsabilités, puis souvent, quand je parle avec ma femme, elle me fait rendre compte de choses que je dois faire. Fait que c'est bien que je le fasse. Je suis quand même le mari et l'autorité dans cette maison-là. Fait que c'est quand même bien. Puis hier soir, je me suis assis sur le bord de mon lit. Puis j'ai réfléchi à un peu ce que ma femme elle avait discuté avec moi. Puis c'est même un point de vue biblique que c'est bon de s'arrêter puis de réfléchir sur les choses. Puis j'ai réfléchi sur ça hier. Puis on est dans une société où ce que je sais pas si vous êtes comme moi, mais on se rend compte qu'on est le lundi matin, on recommence notre semaine, puis on est rendu encore le vendredi soir parce qu'elle est déjà finie, puis on en recommence un autre, puis ça va tellement vite. Puis c'est bien qu'on s'arrête, puis qu'on réfléchisse à nos vies, qu'on réfléchisse à ce qu'on fait, puis tout. Il y a des fois où est-ce qu'on peut paraître fou aux yeux des gens, dans nos manières de penser, dans nos manières de jouer, de faire ou de n'importe quoi. Étant croyant et ayant connu Christ, il y a des choses qu'on sait qui sont bonnes à faire puis qu'on doit faire aussi. Même si on peut paraître fou aux yeux des hommes, il faut se rappeler que Dieu, on est le reflet de Dieu sur terre. Que même si on peut paraître fou aux yeux des hommes, la vérité, on la connaît, on la sait, on sait ce que Dieu veut, puis c'est de notre responsabilité aussi de faire selon le cœur de Dieu aussi, parce qu'on est ses reflets sur terre. Il y a une chose qui me fait beaucoup réfléchir aussi, c'est que il y a beaucoup de gens qui ont les yeux fixés sur moi. Ça, c'est une chose. Mais il y a qu'est-ce que je vous partage le matin, ça peut englober plein de choses. Plein. Il y a des gens qui ont les yeux fixés sur moi, mais il y a des gens de qui la vie dépend aussi. C'est pas juste des gens qui me regardent, c'est qu'il y a des gens qui, à travers ce que moi je vais faire ou ce que je vais avoir décidé de faire envers ces gens-là, leur vie va en dépendre. Puis, c'est ça. Peu importe ce qui va se passer, il faut se rappeler ce que Dieu nous a demandé de faire aussi. Puis, un matin, ma fille était assise avec moi dans la rangée, puis elle me demandait, « Papa, lis-moi, qu'est-ce qui est écrit dans ta Bible? » Fait que là, je me disais, « Je peux pas y lire ça, tout le monde m'entend chuchoter. » Fait que j'en ai lu une petite phrase. Ça dit, au jour de la détresse, invoque-moi et je te délivrerai. Puis ma fille, elle me dit, pareil comme Daniel dans la fosse aux lions. Parce que dernièrement, j'ai passé genre 5-6 soirs, j'allais sur Internet, puis j'ai fait jouer l'histoire de Daniel dans la fosse aux lions en bonhomme. Puis tu sais, je lui faisais jouer un 10-12 minutes à tous les soirs, puis après ça, je lui ai posé des questions sur l'histoire. Puis ma fille, elle a genre full imbibé ça, cette histoire-là, puis elle me garoche ça un matin. Puis je me dis, calé, qu'elle a de la mémoire. Puis c'est le fun parce que cet âge-là, ça absorbe tout. Mais tu sais, quand je vous dis la vie de gens peuvent dépendre de qu'est-ce qu'on fait, c'est que mes enfants dépendent de qu'est-ce que je vais investir dans leur vie. Parce qu'ils ont besoin de moi pour les starter. Puis après ça, quand ils seront plus vieux, ils décolleront. Mais c'est qu'est-ce que moi, je vais avoir investi en premier qui va dépendre aussi de beaucoup de choses. Fait que, puis je veux vous lire une chose en finissant. Ça dit, pareil comme j'ai fait hier soir, en tout cas, quand je me suis assis sur le bord de mon lit puis que j'ai réfléchi, dans le psaume 46, verset 11, ça dit, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. » Fait qu'il faut arrêter, puis il faut savoir que Dieu, il est là. Puis il faut arrêter, puis il faut savoir que Dieu est Dieu, puis qu'il est avec nous autres en tout moment. Fait que je voulais juste vous emmener à réfléchir sur les responsabilités qu'on avait chacun de nous dans plein de domaines. Quand je vous dis, c'est dans plein. Fait que c'est pour ça que j'ai pas trop développé dans rien, parce que ça peut tout vous parler de manière différente. Fait que arrêtez, puis réfléchissez, puis c'est une bonne chose qu'on s'arrête pour réfléchir sur les choses. Fait que je cède la parole à Pasteur Richard.
Gilles, bonjour tout le monde. Content que vous soyez là. Vous avez passé une bonne semaine. Oui, pour plus, moyen. Oui, hein. Excellent. Moi, je connais bien ce camp-là pour y avoir été à de nombreuses reprises. Juste avant que, pour ne pas que je l'oublie, la semaine prochaine, il va y avoir un prédicateur invité que vous ne connaissez pas, mais que moi, je connais bien, qui s'appelle Yvan Godreau. Yvan, c'est un frère que j'ai connu au camp des Boulots, camp Patmos, un frère qui est ancien à l'église de Trois-Rivières depuis des années. Je ne sais pas s'il l'est présentement, mais sur une période de 20-25 ans, là, la plupart du temps, il était un des anciens là-bas, quelqu'un qui enseigne encore régulièrement à l'église baptiste de Trois-Rivières. Et quand j'étais à Shawinigan Sud, pas loin, j'ai eu le plaisir de le connaître, de le côtoyer. Donc, accueillez-le chaleureusement. Certains que vous allez être bénis par un enseignement qui va être sur Jean 13, Jésus qui lave les pieds de ses disciples. Ça donne bien. On continue dans notre série sur Jésus. Merveilleux Jésus, et aujourd'hui, ce matin, on va se concentrer sur les relations de Jésus avec les gens. Vous savez, Jésus est venu il y a 2000 ans, puis sa vie, son enseignement, on pourrait dire, écoute, c'est passé date, là, c'est vieux jeu, c'est dépassé. Je regarde juste au niveau des relations humaines. Quand je regardais, puis je pensais, v'là 20 ans, quand j'avais 40 ans, ou v'là 40 ans, quand j'avais 20 ans, c'était quoi le type de relation que j'essayais de penser avec mes parents, ensuite, quand je me suis marié? Je dis, hey, ça a donc bien changé, ça a donc bien évolué, les relations interpersonnelles. Je regarde ça, Jésus, plus la société avance, plus la société évolue et à certains égards, hein, dans certains domaines, la société, là, il y a une corruption qui s'installe, puis ça n'arrêtera pas. Mais si je veux regarder ça objectivement, en tout cas ma perception à moi, c'est que dans certains domaines, la société s'améliore. Il y a des choses qui étaient méchantes, mauvaises, des abus, du contrôle, du chantage qui était carrément accepté. Je me souviens d'un cours d'école quand il y en avait un qui faisait le bullying puis qui faisait peur à tout le monde. Puis si on allait voir un professeur, qu'est-ce qu'il nous disait? Voilà, j'ai entendu ça avec mes enfants. Non, on veut pas intervenir parce que ça va être pire. On va les laisser régler ça ensemble. Tu sais, un petit jeune là, violent, puis qui était le matamor de la cour, et c'était la même chose quand j'étais jeune, hein. Tu te plaignais pas des mauvais traitements que tu avais parce que tu allais avoir un deuxième problème. La société évolue, grandit, et plus il y a des bonnes valeurs au niveau relationnel, plus je vois que la vie de Jésus au niveau des relations est de plus en plus pertinente. Jésus ne devient pas vieux jeu. Au contraire, les valeurs de Jésus pour les relations ne vieillissent pas, ou s'ils vieillissent, ils vieillissent très bien comme un bon vin. Pourquoi? Parce que la vérité, la justice, la bonté, ça n'a pas d'âge. C'est lié au cœur de l'homme et ça, c'est toujours actuel et pertinent. De nos jours, hein, d'une façon tout à fait spéciale, depuis un 5-10 ans, l'abus, le contrôle malsain, la manipulation, le chantage, la menace, la violence, c'est dénoncé comme jamais dans notre société moderne. C'est dénoncé, c'est pas toujours, les actions sont pas toujours parfaites, mais c'est une bonne chose, hein. Et on peut dire aussi que c'est une bonne chose tant que ce qui est dénoncé et c'est vraiment des fautes qui ont été commises. Mais ça, c'est une autre histoire. Jésus a toujours enseigné la bonté, la justice, la vérité, la grâce et l'amour. Et il l'a démontré, il l'a incarné dans ses relations avec les êtres humains. On sait que l'homme est fait à l'image de Dieu. Donc, on a les éléments de la personnalité. Jésus est notre créateur. Et Jésus a entré en relation avec des gens faits à son image, des gens qui sont capables de réfléchir, des gens qui sont capables de ressentir des émotions, des gens qui sont capables d'exercer une volonté, de choisir entre le bien et le mal, et des gens qui sont capables d'aimer. Ce matin, on veut mettre en évidence les relations de Jésus avec les gens. On veut saisir notre Jésus, mieux le comprendre. On va voir la beauté, la grandeur, la perfection de Jésus qui est notre modèle. On va voir différents exemples. Et le premier exemple qu'on veut voir, on va voir deux contrastes. Un premier contraste qu'on veut voir, c'est Jean 3, Jean 4, hein, c'est deux chapitres, un à côté de l'autre, tout proche, et quand on étudie l'épître, l'évangile de Jean, hein, c'est une des choses, le contraste entre Jean 3 et Jean 4. Le contraste entre deux rencontres que Jésus a eues. Une rencontre avec Nicodème et l'autre rencontre avec la femme samaritaine. En Jean 3, on a notre personnage Nicodème, et Nicodème, c'était un chef religieux. Jésus l'a appelé, tu es l'enseignant, tu es le docteur d'Israël. Il lui a dit, tu ne sais pas ces choses. Et c'était un homme juste, c'était un grand de ce monde. Quand on regarde à la femme samaritaine, hein, c'était une grande pécheresse. Elle avait eu 5 maris, puis l'homme avec qui elle était, le sixième et plus, hein, c'était même pas son mari. La Samaritaine avait une vie tout croche, on pourrait dire en bon québécois. Autre contraste, c'est que Nicodème a fait l'effort d'aller vers Jésus. C'est lui qui a initié. Mais c'était au début du ministère, hein, Jean 3, c'est quand même dans le début du ministère de Jésus. Puis Nicodème, t'as pas sûr, il voulait pas s'afficher trop, donc il est allé de nuit, juste pour pouvoir garder ça confidentiel. Nicodème qui va de nuit. Mais là, c'est pas la femme samaritaine qui est allée vers Jésus, c'est Jésus qui a dit, moi, il fallait que je passe par là, par Sichar, qui était un village de Samaritains. Il fallait qu'il passe par là parce qu'il n'y avait aucune raison de passer par là. Le chemin des Juifs pour aller en Galilée, de Galilée à la Judée, c'était pas du tout par là. Et les disciples l'ont suivi. Et Jésus l'a rencontré au gros soleil, au milieu de la journée, vers midi. Intéressant, un autre contraste, c'est que Nicodème, notre homme qui était bon, grand, un chef religieux, un enseignant, il est reparti tout confus. Hein? Il comprenait pas. Jésus, il a dit, écoute, t'es le docteur d'Israël, puis tu sais pas ces choses-là. Puis il dit, on parle de ce qu'on connaît. Puis il dit, moi, Jésus, je te parle à toi, Nicodème, de ce que je connais, mais toi, tu connais pas ces choses-là. Puis Nicodème est parti tout mélangé. La femme samaritaine, elle, est partie joyeuse en retournant à son village en disant, il y a un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ce ne serait pas le Messie. Et elle a évangélisé tout son village. Elle est repartie avec le salut. Tout un contraste, Jésus qui entre en relation. Nicodème, tout de suite, il faut dire que ce n'était pas un homme mauvais. On peut dire que c'était un des meilleurs des pharisiens et des chefs religieux. Et à quelques reprises, on se doute, on voit certaines... Des fois, ouais, on est certain, mais à d'autres moments, là, on se doute, ah, c'est encore Nicodème qui prend position contre Jésus, pour Jésus, contre ses confrères pharisiens. La femme de Sichar était la plus grande pécheresse du village. Hein? C'était celle qui était rejetée. C'est pas pour rien qu'elle allait chercher de l'eau au puits à midi. Elle allait être tranquille, elle allait avoir la paix, elle allait pas voir tout le monde. C'est à cause de la chaleur, c'était le moment où on prenait une pause. La vie de cette femme sans vertu était bien connue dans ce petit village. Et pourtant, le meilleur des grands, Nicodème, n'a pas reçu ce que la pire des petites gens a accepté, le salut en Jésus. Et on croit vraiment que Nicodème, plus tard, a reçu Jésus. Mais c'est notre Jésus qui entre en relation avec les gens. Ce qui l'intéresse, premièrement, c'est pas les grands, c'est pas les bons, c'est pas les beaux, mais c'est ceux qui reconnaissent leurs besoins pour venir à lui, pour croire en lui. Jésus entre en relation avec ceux qui ont le cœur ouvert puis qui reconnaissent leurs besoins, peu importe leurs conditions. Et Jésus va vers ceux que personne ne veut. Donc, première relation qu'on regarde, un contraste Nicodème-Samaritaine. On va avoir un deuxième contraste. Deuxième contraste, et je vais prendre le temps de lire. Je ne sais pas si vous avez vos téléphones intelligents proches. Dans Luc, on va lire les versets qui sont là. Luc 7, verset 36. On va lire certaines sections. On se souvient de Simon, le pharisien, qui était un homme important, avec une bonne position et un homme assez en moyen. On va lire l'invitation qu'il a fait à Jésus. Luc 7, verset 36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfum et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Et il saurait que c'est une pécheresse. » On va terminer avec les versets 44. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu m'as point donné d'eau pour me laver les pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes et elle les a essuyés de ses cheveux. Tu n'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé d'embrasser mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Et Jésus, afin qu'il dit, tes péchés sont pardonnés. On a un pharisien. C'était un homme riche, un homme important. On voit qu'il y avait d'autres gens qui avaient été invités, les grands de ce village-là. On avait une femme ici qui était une pécheresse. Hein? On dit une femme pécheresse, mais c'était une prostituée. C'était vraiment une rejetée de la société. Le pharisien qui devait avoir extérieurement une bonne conduite par rapport à la loi de l'Ancien Testament, était un propre juste, celui qui n'avait pas besoin de rien. Il faisait venir Jésus, probablement on peut deviner là, entre les lignes que c'était comme pour avoir une ouverture d'esprit, de dire, regardez, Jésus, non, il est contesté, mais je vais le faire venir chez nous, un peu comme un honneur, et pas nécessairement avec un cœur ouvert. Simon qui prie Jésus de venir manger à sa table, et elle, la femme, est venue sans avertir, elle était souffrante, elle était chargée, elle avait absolument besoin de Jésus, elle était prise dans sa vie avec beaucoup de souffrance et elle voulait s'en sortir, elle se sentait mal face à Dieu et cet homme-là parlait de Dieu comme jamais et elle est venue et elle repart avec le salut. Tandis que Simon, lui, il doute que ce soit un prophète, puis il dit, s'il savait qui est cette femme, puis quelle sorte de femme c'est, il accepterait même pas d'être en contact avec elle. Ça, c'est notre Jésus. Hein, c'est comme des contrastes. Celui qui est bon, puis que Jésus devrait plus aimer, celui qui est un défenseur de la loi de l'Ancien Testament, Jésus devrait plus aimer lui, mais il aime les gens qui enfreignent la parole de Dieu. Jésus ouvre les bras et ouvre son cœur à tous ceux qui viennent à lui et qui reconnaissent leurs besoins. Ça, c'est notre Dieu qui entre en relation avec nous. Et moi, je suis émerveillé d'avoir un tel Dieu, un Jésus comme ça. Et s'il serait moins que ça, on pourrait dire, il me semble que la révélation parfaite de Dieu est incomplète. Et ce qui est intéressant dans les relations, c'est que Jésus, la forme, l'extérieur, ce qui paraît, les choses matérielles, il s'en fout dans le fond. Hein. Quand il est venu manger avec Marthe et Marie, puis Marthe qui voulait faire un repas, puis il dit lui qu'elle m'aide, c'était quoi qui était important? C'était la relation, le fait que Jésus parlait, les gens écoutaient et il y avait cette communion. La grandeur de l'amour, sans favoritisme, sans égard aux apparences, ça c'est notre Jésus. Et l'homme ne pense pas comme Dieu. Hein? Et on a tendance toujours à penser que, vu qu'on connaît la Bible, qu'on a reçu Jésus dans notre cœur, qu'on a tendance à penser que Jésus pense comme nous. Si moi je vois les relations comme ça, ben sûrement vu que je lis la Bible et que j'ai Jésus dans mon cœur, sûrement que Jésus est d'accord avec moi. Jésus pense pas comme nous, bien des fois. Quand on pense comme Jésus, parce que on a quitté notre façon de penser, puis on a dit Jésus, c'est toi qui as raison, là, on peut avoir ces relations saines. Aujourd'hui, dans notre monde évangélique moderne, avancé, qu'on a fait beaucoup de progrès au niveau du cœur, je peux vous dire que moi, le premier, puis dans dans bien des situations, on ressemble-tu des fois à Simon? On voit des gens et on dit, « Ouais, mais lui, il croit telle chose. Lui, il agit comme ça. Lui, il a telle valeur. Pas sûr que... » Je pense que je vais passer à côté. Là, je ne dirais pas que c'est mal ce qu'il fait, mais je vais passer à côté en regardant ailleurs. Je vais regarder. Je ne chercherai pas à initier le contact. Puis s'il initie le contact, quand je vais garder une distanciation, je vais dire, c'est 2 mètres. Ah, OK, c'était avant la COVID. Mais non, on garde un bon bras pour garder les personnes à distance parce qu'on ne veut pas entrer en relation. On est mal à l'aise, ça vient troubler notre système de valeurs. Le système de valeurs de Jésus, c'est que cette personne-là est importante. Elle a un cœur touché, qui souffre, puis elle vient pour avoir de l'aide. Hey, Jésus, c'est ça, ses valeurs dans les relations. On va laisser les contrastes et on va voir les relations de Jésus avec différents groupes de la société. On veut commencer avec les chefs religieux et on va mettre en même temps les autorités de ce monde. On a vu dans Matthieu 12, là, 2 semaines, et il y avait les fausses accusations de Jésus, des pharisiens. À ses disciples, hein, vous vous souvenez, ses disciples, c'était un jour de sabbat, puis il avait faim, puis il avait frotté des grains de blé, puis il en avait mangé un jour du sabbat. Et au verset 7, Jésus a dit, « Si vous saviez ce que signifie, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, vous n'auriez pas condamné des innocents. » Et ça veut dire beaucoup. Jésus entre en relation avec les gens. Il est là, il est ouvert. Et là, il voit des gens qui utilisent leur autorité, les chefs religieux, pour dire, « Hey, regarde, dans Deutéronome, il est dit dans Nombre, dans Exode, quand Dieu a donné la loi, regarde verset chapitre 24, puis, dans le fond, pour accuser des gens qui n'avaient rien fait. Et ça, Jésus, ça le troublait. Il voyait les gens qui étaient blessés au nom de Dieu, qui étaient amenés dans une mauvaise direction. Et tout de suite, Jésus prenait leur défense. Il dit, la loi, c'est quoi? Je prends plaisir à la miséricorde. Vous êtes en train de mettre un fardeau religieux qui ne vient pas de mon Père et qui ne vient pas de moi. En Matthieu 15, laissez-les faire, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Encore Jésus qui regarde les chefs religieux et qui dit, hey, ça m'attriste tellement. Vous comprenez rien, puis votre ignorance, votre aveuglement, vous l'imposez aux gens. Et encore une fois, dans Matthieu 16, vous n'avez pas les versets. Une génération méchante et perverse demande un miracle. C'était les pharisiens encore qui demandaient. Jésus agissait envers les chefs religieux selon leur cœur. Quand les chefs religieux étaient ouverts, Jésus était prêt à ouvrir leur cœur. On se souvient, un pharisien qui avait demandé « C'est quoi le plus grand commandement? Tu aimeras ton prochain? » Et moi, ça m'a toujours frappé la réponse de Jésus à ce pharisien-là. Il lui a dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Hé! Hey! Jésus, envers un pharisien, un chef religieux, qui lui dit « Continue, tu as une ouverture de cœur, puis tu cherches, puis avance. » Garde cette attitude-là. T'es pas loin. Tu vas comprendre à un moment donné. Mais quand ils étaient entêtés, fermés, Jésus, dans ses relations avec les chefs religieux, il ne les craignait pas du tout. Jésus n'a jamais cherché leur approbation. Au contraire, on peut dire qu'il n'hésitait pas à mettre des circonstances pour les provoquer, pour les confronter, pour leur faire voir, « Hey, vous êtes dans l'erreur, vous êtes dans l'apparence, vous êtes des sépulcres blanchis, que vous paraissez beau à l'extérieur, mais en dedans, c'est juste de la pourriture dans votre cœur. » J'aime Jésus qui soit comme ça face aux chefs religieux. Et Jésus était aussi comme ça face aux autorités de ce monde. On se souvient dans Matthieu 17, versets 24 à 27, qui paie le tribut, il est en train de dire, « Je respecte les autorités en place, parce que Jésus dit que c'est lui qui a établi ces autorités-là. » On voit ça dans Romains, la parole de Dieu dit ça. Mais il savait en même temps que son royaume n'est pas de ce monde. Quand lui va régner, puis quand c'est ses valeurs qui vont être mises de l'avant, c'est pas les dirigeants de ce monde qui vont établir ça. Au moment de son arrestation, Jésus a rencontré, a été mis en confronté à plusieurs chefs religieux, plusieurs chefs politiques. Anne, Caïphe, Hérode, Pilate. Une des choses que Jésus a faites le mieux devant ces grands-là qui l'accusaient puis qui lui posaient des questions, qu'est-ce que souvent Jésus a fait? Il a gardé le silence. Il ne voulait même pas démontrer qu'il était à la merci de ces hommes-là. Il voulait leur dire, « Écoute, tu me traites avec mépris. Hein? » On pense à Hérode qui a dit de frapper Jésus, puis Jésus a été frappé, puis il a dit, « Pourquoi tu me frappes? Je suis là pour selon la loi. » Je pense que ça, c'était Anne et Caïphe. C'était pas Hérode. Hérode l'a fait traiter avec mépris par les soldats. Jésus n'était pas là pour se justifier, il n'était pas là en situation d'infériorité. Il était là pour confondre ses dirigeants humains. On pense à Pilate qui était dans tous ses états. Jésus a dit à Pilate, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Dis-toi, eux autres, leur faute est grande de même, mais toi qui me juges est grande de même. » Jésus, qui est là, devant les grands, devant les puissants, il n'a jamais cherché leur approbation. Et ce que Jésus ne pouvait pas supporter des chefs religieux, c'était l'abus, le contrôle, la manipulation au nom de Dieu, au nom de la parole de Dieu. Et dans le fond, Jésus leur a dit, en Matthieu 23 et à bien d'autres égards, qui étaient des voleurs, hein, qui étaient des menteurs. Même les soldats, hein, quand les soldats ont demandé à Jésus, « Jésus, as-tu un conseil pour vous? » Oui, contentez-vous de votre salaire et arrêtez de prendre l'argent des autres. Ah, OK, c'était assez simple. Les dirigeants qui étaient voleurs, menteurs, meurtriers. Et Jésus voulait protéger ceux qui étaient exploités au nom de Dieu. Ça, c'est ses relations avec les autorités. Jésus regardait au cœur et non à l'apparence et il ne craignait personne et il cherchait à plaire à Dieu seul. C'est ça qui guidait ses relations avec les autorités. On veut continuer. Les relations de Jésus avec ceux qui reconnaissent leur insuffisance. Et je dirais que c'est là que Jésus est à son meilleur. On pense à la femme surprise en délit d'adultère, hein? Humiliée, abaissée, les dirigeants, la foule qui est là. La parole de Dieu nous dit de lapider une telle femme. Toi, Jésus, qu'est-ce que tu dis? Et Jésus sait que elle comprend ce qu'elle a fait. Elle est démunie. Il ne lui fait pas de reproche. Au contraire, il la protège. Et il lui dit, je te condamne pas, moi non plus. Les autres sont partis. Va, ils ne pêchent plus. Ça, c'est notre Jésus. En Luc 15, les versets 1 à 2, il est dit, tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. C'est incroyable, hein? Il faisait fuir les bons pharisiens, mais il attirait à lui, comme un aimant, ceux qui avaient une vie tout croche. Mais pourquoi donc? Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Jésus n'était pas attiré par le bien-paraître, par l'apparence, par la force, par la réputation trompeuse. Jésus, ce qui affectionnait et ce qui affectionne encore, c'est l'honnêteté, la transparence, l'humilité. Il veut rencontrer la vraie personne. Quand on entre en relation avec les gens, c'est qui se présente, hein? C'est-tu le Richard qui va dire ce que les gens veulent entendre, le Richard qui va avoir une bonne image, ou ça va être le Richard vrai? Et si quelqu'un qui vient vers moi, puis il est trop vrai, puis whoop, il s'ouvre, puis il m'en dit trop, de dire, oh, je voulais juste te demander comment, bonjour, comment ça va, là, je voulais pas que tu m'en dises tant. Jésus, lui, il veut l'entendre. Jésus, c'est cette relation-là qu'il veut avec ses enfants avec nous et qui veut avoir envers tous les gens dans la société. Une autre personne qui reconnaissait son insuffisance, c'est le petit Zachée. Je vous lis le Luc 19. Versets 1 à 10, là, une sélection de versets. Jésus est entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Et Jésus lui dit un petit peu plus loin, « Le salut est entré dans cette maison. » Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Wow! Zachée était celui que tout le monde rejette, hein? On a moins ça dans nos sociétés de grandes villes, mais quand on avait un village ou une ville, des fois il y avait quelqu'un sur lequel tout le monde s'acharnait parce que tout le monde disait, lui, on l'haït. Lui, on l'aime pas. Lui, on veut pas y parler. Puis s'il y en a qui veulent être ses amis, on sera plus leurs amis parce que on a décidé qu'on veut rien savoir de lui. Parce qu'il y en a qui ont connu ça dans certains villages, pas vous personnellement, mais qu'on le voit. Cet homme riche était rejeté parce qu'un publicain, on sait c'est quoi, hein? Le publicain était un traître de Rome. Parce qu'il y avait des postes de péage où Rome disait, nous, on a un grand empire, puis on construit des routes, on construit des temples, toutes sortes de choses, ça prend beaucoup d'argent. Fait à chaque fois que vous allez passer par vos routes, on n'a pas le moyen de mettre des soldats parce que ça coûte trop cher. Donc, on va prendre des gens de votre peuple, des Juifs, puis ils vont dire, ça coûte un denier pour passer là, hein. Mais le publicain, lui, au lieu de dire c'est un denier, il faut que je donne un denier à Rome, il en demandait deux, puis trois, puis s'il voyait que tu avais une belle voiture, un gros chameau avec une charrette. Là, il avait dit, pour toi, c'est 5. C'est pour ça que quand on dit les gens de mauvaise vie et les publicains, c'était les prostituées puis les hommes qui demandaient les droits de péage, c'était ceux qui étaient le plus haïs. Donc, lui, il était haï pour ça. Pourquoi est-ce qu'il était encore plus haï puis rejeté? C'était un chef des publicains. Donc, lui, il s'en mettait encore plus dans les poches, puis il était encore plus responsable. Peut-être qu'il avait accepté ce rôle-là, parce que de toute façon, avec sa petite taille, il était déjà rejeté, ridiculisé, mis à part. Jésus, quand il le voit dans l'âme, il connaissait sa vie, il connaissait sa douleur. Il a dit, tout le monde, personne ne veut rien savoir de toi, mais moi, je veux aller dans ta maison. Je veux avoir une communion avec toi. Et Jésus qui dit, celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Jésus est en train de reconnaître la valeur de chaque être humain. Et Jésus se plaît à donner de la valeur, plus de valeur à ceux qui en ont moins aux yeux des gens. Ceux qui reçoivent le mépris, que ce soit justifié ou non, que ce soit basé sur certaines situations qu'on dit, écoute, lui, il l'a mérité. Jésus, il fait grâce, puis il donne de l'acceptation. Ça, c'est notre Jésus face aux gens démunis, pauvres, face à ceux que on va rester dans le groupe, dans la majorité, puis nous aussi, on veut rien savoir de lui. Ça, c'est notre Jésus. Jésus avec les petits-enfants, hein? Sûrement que vous l'attendiez, celle-là. Comment Jésus entre en relation avec les petits-enfants? Matthieu 18, 1. Quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit en moi, il vaudra mieux pour lui qu'on suspendit à son cou une meule de moulin, et qu'on la jeta au fond de la mer. Et un peu plus loin, il dit, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits et qui croient en moi. Même dans d'autres passages, Jésus, quand les disciples, les apôtres disaient, hey, les enfants, là, venez-vous loin, là, venez pas déranger le maître, là, on a des meetings, il faut qu'on rencontre des gens, il va donner un discours tantôt, là, les enfants, là, allez jouer ailleurs. Jésus qui était scandalisé de ça parce qu'on empêchait les petits-enfants de venir à lui. Jésus a une attitude contraire à la pensée humaine, logique, normale. Il est gentil, ouvert, bienveillant envers les petits, ceux qui sont petits parce qu'ils sont jeunes. Envers les faibles, envers les humbles, envers les misérables. Et il a tendance un peu à être dur ou intransigeant, des fois même fermé face aux grands puis aux puissants de ce monde. Ce qui est merveilleux, c'est que Jésus était le plus fort de tous. Jésus, il l'a dit, hein, il avait juste à prier son père, puis qui a renvoyé 10 légions d'anges pour le défendre. Jésus avait toute autorité, tout pouvoir. Jésus était le plus fort de tous. Mais Jésus voulait utiliser sa force de caractère, sa force morale, sa force spirituelle, pour prendre soin du faible. Et le vrai fort, même dans la société, on pense à des dirigeants de certains pays qui de certains pays qui disent qu'ils sont forts, mais c'est juste des abuseurs puis des gens qui sont faibles moralement, qui sont tout croches. Le vrai fort, c'est celui qui se préoccupe du plus faible, du pauvre. Le vrai fort, c'est celui qui met ses ressources pour celui qui en a besoin, pour le démuni. Le grand, c'est celui qui prend soin du petit. Et ça, c'est notre Jésus qui entre en relation avec sa créature, avec les êtres humains. Jésus ne regarde pas à l'apparence. Jésus n'agit pas pour recevoir par intérêt personnel. Jésus agit pour donner, pour prendre soin, pour faire bénéficier aux autres de ce qu'il est. Wow! Tout un défi pour nous. En même temps, Jésus est fort. Jésus est puissant. Jésus est le maître de l'univers. Toutes choses sont en sa main. Qu'est-ce qui arrive quand on lui dit, « Jésus, je suis pas sûr. Je suis pas sûr là-dessus. Je pense que je vais te dire non. » Hey. Il y a des gens qu'on connaît dans nos familles à qui il faut pas dire non. Parce que si on dit non à une invitation ou non à une demande de les aider, on sait que on va en entendre parler. Puis si on n'entend pas parler, on sait qu'on va vivre les conséquences. Hein? Je vois que ça rit là. En Jean 6, 60 à 66, hein, Jésus avait enseigné sur qu'il était le pain de vie, puis l'enseignement était dur, puis quelques-uns des disciples ont dit, c'est dur ton enseignement, et plusieurs ont décidé de le quitter. Et Jésus, devant ça, a juste dit à ses disciples, regardez, vous me suivez d'une façon volontaire, vous aussi voulez-vous vous en aller, vous pouvez le faire. En Luc 9, versets 57 à 62, où il dit à trois reprises, « Suis-moi », des fois c'est des gens qui disent, « je vais te suivre, mais laisse-moi enterrer mon père. » Jésus laisse libre. Il dit, « Toi, suis-moi. Laisse faire les autres. C'est entre toi puis moi. Puis, si des gens décident de pas me suivre, je me fâche pas. » Jésus, le jeune homme riche, hein, le jeune homme riche, qui va à Jésus puis qui dit, « Jésus, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir la vie éternelle? » « Oh, tout ça, j'ai fait ça depuis le début de ma vie. J'ai toujours fait ça. » Et il est dit que Jésus l'aima. Hein? Jésus l'a regardé avec un sourire en disant, « C'est vrai que tu mets beaucoup d'efforts pour obéir à ma parole, puis t'as quand même un bon cœur. » Et là, il lui a dit, « OK. » Si tu veux vraiment tout quitter, ben vends tout ce que tu as puis suis-moi. Et ce jeune homme-là a pas été capable, mais Jésus a accepté. Jésus n'a pas fait de menace. Jésus n'est pas revenu avec un commentaire en lui disant, tiens-toi. Jésus a accepté. On pense au village des Samaritains, hein? Jean puis Jacques, pourtant l'apôtre Jean qui est l'apôtre de l'amour. Il était aussi appelé un des deux fils du tonnerre. Quand le village des Samaritains n'ont pas voulu l'accueillir, ils ont dit, on va ordonner de faire descendre le feu du ciel. Et là, Jésus a dit, mais vous savez pas de quel esprit vous êtes animé. Et Jésus simplement est allé dans un autre village. Jésus acceptait et accepte encore qu'on lui dise non. Jésus ne fait pas de menaces, d'intimidation, d'abus ou de chantage. Jésus enseigne les vérités spirituelles parce qu'elles sont là. Jésus invite les gens, mais il accepte notre réponse. Jésus ne voulait pas forcer personne. Il ne voulait pas contraindre par la menace en étant cinglant, méchant. Jésus disait toute la vérité et la parole de Dieu dit encore toute la vérité. des vérités qui sont grandes, qui nous dépassent, hein, sur la vie, sur la mort, sur le salut, sur la perdition. Mais une fois que Jésus a dit la vérité, il nous laisse libres. Jésus n'utilise pas sa force contre nous pour nous faire du mal. Jésus est doux et humble de cœur. Imaginez comment ça fait du bien d'entrer en relation avec Jésus. Jésus invite les gens à recevoir son amour. Il veut nos cœurs. Il désire une réponse de notre part. Dans la grandeur, la noblesse de notre Dieu, il invite, il appelle, il supplie même. Mais une fois que l'invitation est faite, la balle est dans notre camp. C'est à nous à répondre et il ne force personne. Jésus accepte un non de la part de l'homme. Avec tristesse, mais il respecte notre choix. On peut apprendre de Jésus. Accepter que des gens ne pensent pas comme nous. Accepter que des gens disent des choses qui sont totalement contraires à la parole de Dieu sans s'en prendre à ces gens-là, sans les mépriser, en acceptant. Jésus, dans ses relations, il aimait les gens, il se souciait d'eux, il pleurait sur la foule, il pleurait sur Jérusalem. Jésus, il n'est pas venu pour perdre, il est venu pour sauver. Et Jésus, en venant sur la terre envers les êtres humains, il n'y avait rien à gagner. Il y avait juste à donner. En terminant, comme nous, comme enfants de Dieu, on est appelé à vivre selon ces standards-là. Jésus nous aime. Jésus veut entrer en relation avec nous. Il nous appelle ses proches, il nous appelle ses amis. Il nous dit, voici de quel amour le Père nous a aimés pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Est-ce qu'il arrive que Jésus est déçu de nous, qu'on l'attriste? Oui, certainement. Quand on est indifférent à sa personne, lorsqu'on est orgueilleux, hautain, mais s'il arrive que Jésus peut être déçu de nous, jamais son amour pour nous ne fléchit. Il nous aime d'une façon parfaite, merveilleuse, il nous aime pour toujours et on va toujours être ses enfants. Jésus est jaloux de nous dans sa relation, il nous veut. Il désire qu'on ait cette relation intime avec lui. On a besoin de s'approcher de lui. Deux petits versets en terminant. On va avoir des relations à l'image de Jésus, un principe général, un Jean 2,6 qui dit que celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme il a marché lui-même. Donc, on va avoir des relations qui sont imprégnées des relations qu'on a vues que Jésus avait. Et ensuite, ça dit, « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. » Et ces trois termes-là englobe vraiment les caractéristiques des relations de Jésus. On va terminer dans la prière. Seigneur Jésus, comme c'est bon d'une façon concrète de voir que quand tu as marché sur cette terre, ce qui t'intéressait, c'était les gens. C'était le cœur des gens. C'était de rencontrer les besoins profonds, la souffrance. Seigneur Jésus, ceux qui venaient à toi avec orgueil, en étant hautains et qui voulaient paraître, avoir une bonne réputation, Seigneur Jésus, tu voyais ce qui était véritablement en eux et tu les dénonçais. Seigneur Jésus, ceux qui venaient à toi d'une façon humble en disant, Jésus, j'ai besoin de toi, Jésus, je souffre. Jésus, ma vie est un fiasco, viens, prends-les. Seigneur Jésus, tu faisais preuve de tellement de grâce. Merci Jésus que tu entres en relation de la même façon avec nous. Seigneur, aide-nous aussi à entrer en relation avec nos proches, avec ceux qu'on côtoie de la même façon. On veut être imbibé de tes relations, Seigneur Jésus. On veut garder ta parole dans nos cœurs, Seigneur. Merci, Jésus, d'être comme tu es. Merci d'avoir marché comme tu as marché, Seigneur. Amen.
Ce message vous a fait du bien? Vous en voulez plus? L'Église Grâce et Vérité vous offre un site web sur lequel vous trouverez des messages en audio, vidéo et bien plus. Merci de nous honorer en les partageant sur les médias sociaux. Vous pouvez aussi laisser vos commentaires sur notre page Facebook ainsi que sur notre site web au www.graceetverite.org.